Je me suis laissé questionner par le titre Loger Mobile, qui est effectivement intrigant, que je n'aurais pas appelé comme ça, évidemment. Mais bon, justement, c'était intéressant. Et ce titre-là, finalement, m'a fait réfléchir et réorganiser pas mal de choses, y compris ça m'a servi, moi, pour mes travaux sur lesquels je suis actuellement depuis plus de 20 ans, sur la Bitel en particulier, donc ce que j'appelle habiter le numérique. Je vais y venir tout à l'heure pour repréciser ce que j'entends par là. Mais aussi, ça m'a fait revenir sur autre chose, parce que je travaille sur complètement autre chose, apparemment, pour le moment. C'est sur un bouquin que je prépare, qui est presque fini, sur les propagations, donc une théorie un peu générale des propagations. Et sur le coup, je me suis dit, bon, tout ça n'a pas de rapport, et donc, voilà, il faut que je me fasse l'effort de mettre tout ça en... Puis en fait, si, alors vraiment, c'est pas artificiel, ça demande un effort, mais au bout d'un moment, effectivement, ça prend du sens. Donc, je voulais essayer de reprendre tout cela en parlant précisément des propagations. Celles sur lesquelles je travaille, moi, en général, c'est plutôt celles qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est mon domaine en data science, et avec l'ensemble des outils numériques dont on dispose maintenant, on a une traçabilité de... quasiment tout, apparemment. Mais on voit bien que c'est plus que ça, potentiellement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir accès à un nouveau point de vue sur le social. Donc, c'est ça que je défendrai dans le bouquin qui paraîtra, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. En revanche, quand on parle de propagation, effectivement, on va spontanément plutôt, là, quand la visualisation que je vous ai donnée, on va plutôt parler d'ondes, et donc d'une forme de perturbation, puisque c'est une perturbation qui se déplace, et de trajectoire, mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément dans le vocabulaire que vous utilisez au point de vue des ondes. En revanche, je vous avais parlé toute la semaine de mouvements d'entités diverses et variées, des objets, des personnes, des matières, on a discuté de tout cela, et donc y compris des mobilités résidentielles, bon, ce qui était un thème récurrent dans tout cela. Évidemment, vous n'allez pas les penser en termes de propagation, et je pense que vous avez raison. Mais en fait, il y a quand même un lien qui se fait à travers des questions qu'on pose d'orientation, de vitesse, de fréquence, qui se déroulent dans un espace, etc. Et pour moi, ça fait un écho avec ce que John Urie voulait faire avec sa sociologie des mobilités. Et c'est uniquement parce que je l'ai relu après coup. À l'époque, j'avais compris ça comme les mobilités, un truc basique d'observation empirique. Mais non, il y avait une vraie ambition théorique chez John Urie, et qui est en fait que je reprends un peu d'une certaine façon, même si moi je ne pars pas du même point de vue, puisque je pars de ces propagations précisément plutôt en forme d'ondes, c'est-à-dire de messages qui se propagent dans les réseaux sociaux, etc. Mais il y a un lien entre les deux. Alors, en fait, mon cadre théorique, pour ceux qui me connaissent, c'est pas une nouveauté, effectivement. Ça fait plus de 25 ans ou 30 ans que j'ai travaillé avec Bruno Latour. Et donc, effectivement, c'est plutôt la théorie de l'acteur réseau. Évidemment, avec un arrière-plan, il y a Tard et l'ensemble de ça. C'est une forme de théorie générale des propagations qu'il avait proposée, qui était, elle, physique, biologique et sociale. Mais la pensée qui a été développée autour de la théorie de l'acteur réseau avec Calon, Latour et John Law, par exemple, c'est vraiment une pensée plutôt qui travaille sur le réseau, sur cette idée de réseau. Et du coup, pas tellement en propagation non plus. C'est-à-dire qu'en réalité, on suit la composition et l'évolution, la construction d'un fait scientifique, d'une entité sociale, d'une innovation, de tout ce que vous voulez. On la suit effectivement avec en alignant toutes les médiations qui la permettent de la composer, tous termes qui sont des termes clés dans cette théorie. Et là, je prends un exemple d'un travail de Madeleine Akrisch que vous connaissez peut-être, qui est effectivement celui du kit photovoltaïque, qui est un classique, disons, de l'étude sociotechnique, où elle montre comment, le soleil, on a effectivement un certain nombre de paramètres à prendre en compte qui sont à chaque fois des choix sociotechniques et du coup quasiment politiques et commerciaux d'ailleurs, qui vont construire le kit photovoltaïque que l'ancêtre de l'ADEME avait développé dans les années 80 pour finalement aboutir à ce qu'elle appelle une machine de guerre, puisqu'en réalité, cette innovation-là ne va pas tenir, justement. Mais il y a une longueur de fil fixe qui oblige à mettre sur le sol, donc avec fragilité des panneaux photovoltaïques, une batterie sèche qui est au contraire à la culture locale, du courant continu, ce qui est pareil, qui ne correspond pas aux électriciens locaux, etc. Donc, tous ces éléments-là, vous voyez, c'est un travail où on aligne les choses et on étend les descriptions et on arrive finalement à composer quelque chose qui n'est pas forcément une trajectoire, justement, qui n'est pas non plus une propagation, mais qui est en même temps une façon de composer les objets et de les prendre en compte dans l'ensemble des médiations qui sont nécessaires à les faire tenir. Mais le problème que j'ai toujours eu avec cette approche-là, c'est qu'effectivement, on manque quelque chose parce que, de fait, on réduit d'une certaine façon les nœuds que l'on trouve on les réduit, et c'est encore amplifié par le numérique, parce qu'à partir du moment où on commence à faire des graphes et à décrire des nœuds et des arcs, eh bien effectivement, les nœuds sont un peu creux, enfin creux ou pleins, mais il n'y a rien dedans, quoi. En gros, on prend un nœud, on le labellise, et puis voilà, quoi, c'est bon. Or, précisément, c'est cela qui me paraît poser problème et qui n'est pas traité vraiment dans l'approche de Bruno Latour du côté de la théorie de l'acteur réseau, parce que précisément, ça ne permet pas de comprendre comment ces constructions-là, au bout d'un moment, finissent par subsister, par se maintenir et par exister au-delà d'elles-mêmes. Et c'est ce que j'appelle, moi, plutôt faire institution. C'est-à-dire comment est-ce qu'au bout d'un moment, elles agrègent un certain nombre de choses qui vont au-delà d'elles. C'est pour ça que j'ai toujours pensé systématiquement et en même temps et un peu en parallèle en termes d'enveloppe, et en utilisant l'approche théorique de Jean Gagnepain, qui est un prof, qui était mon prof de linguistique à Rennes et qui a fait toute une anthropologie plus générale et qui est une théorie générale du coup que j'ai étendue moi. Lui, il parlait du vêtement et du logement et puis il est passé à autre chose. Enfin, je suis passé à autre chose. J'ai ajouté le véhicule et le réseau là-dedans. Alors, voyez, l'intérêt de cette approche-là, c'est de se dire que je me retrouve, moi, avec deux orientations apparemment contradictoires, mais qui vont faire sens, je pense, dans cette idée de loger mobile qui fait contradiction, justement, là aussi, et qui est intéressante. C'est qu'il faut qu'on pense à chaque fois non seulement l'enveloppe technique, ce que j'appelle le conteneur, qui est le vêtement, le logement, qui a une fonction d'abri, qui a une fonction essentielle, effectivement, de protection aussi de ces propagations, de cet environnement-là, certes, qui viennent de l'extérieur. Mais pour que ça fasse un intérieur, ça va être ça le problème essentiel, il faut aussi qu'elle puisse devenir un habit et un habitat. Et là, il y a une démarche d'appropriation, et vous voyez bien, effectivement, la racine aberrée qu'il peut y avoir derrière. Et donc, c'est cette seconde peau que l'on se constitue, cette capacité humaine de constituer, qui est universelle, c'est pas les modernes ou je sais pas quoi, c'est tout le temps, où on est capable de se constituer une seconde peau qu'on approprie et qui nous transforme et que l'on transforme à la fois. C'est ce mouvement de l'habité qui me paraît nécessaire de garder en tête, même si j'ai bien compris que vous étiez largement intéressé par la production du logement, par exemple, il reste qu'il y a cette question de l'habité. C'est-à-dire qu'on a beau produire des logements, qu'est-ce qui reste de cet habité et de cette capacité d'habiter qu'on a amplifié, qu'on a permis, qu'on a favorisé ou pas. Donc ça, c'est valable pour l'habit et l'habitat. Et moi, ma particularité, c'est qu'effectivement, j'ai considéré que c'était la même chose pour le véhicule, qui est considéré juste comme effectivement une technique de déplacement, alors qu'en réalité, s'il y a un succès aussi important de la voiture, de l'automobile, c'est bien parce qu'elle est aussi habitacle, c'est-à-dire qu'on se l'approprie et qu'elle nous transforme et qu'on le fait, qu'elle a une enveloppe, une qualité d'enveloppe qui est très difficile à remettre en cause. On le voit bien actuellement. Donc, de la même chose pour le réseau, c'est là où je retrouve justement cette métaphore du réseau qui pollue un peu tout le débat dans tous les domaines. C'est plus du tout la théorie de l'acteur réseau, mais là, c'est effectivement les réseaux techniques, les réseaux numériques. Eh bien, quand on pense dans ces termes-là, on ne se permet pas on s'empêche, j'allais dire même quelquefois, de penser ce qui fait qu'on peut se les approprier et être constitué à l'intérieur, dans ces réseaux-là. Et on pense à ce moment-là juste des utilisateurs comme des points, des nœuds, etc. Et puis c'est bon, quoi. Donc la question est bien de produire ce que j'appelle, ça c'est un néologisme, une habitelle, qui est dans la même lignée étymologique, mais qui permet justement de repenser notre façon d'habiter le numérique. Donc l'important, c'est précisément de ne plus... et à ce moment-là, on parle plutôt de contenant, de conteneurs et de contenants dans le bouquin... La ville-événement, j'ai essayé de commencer à poser les bases de cela, d'une certaine façon. Donc, on a, du coup, une anthropologie de ces enveloppes techniques de l'habit, de l'habitat, de l'habitacle et de l'habitel. Alors, le problème, c'est ce que je disais tout de suite. Donc, toujours plus logé, oui, certes, et c'est une nécessité technique, économique, à tout point de vue. Mais le problème, c'est où est-ce qu'on habite? Est-ce que, pour autant, quand on produit le logement, on a permis, favorisé de l'habitat et faciliter cela? Alors, c'est plus compliqué que l'affaire ne paraît, parce qu'on peut considérer que dans les slums de Mumbai, il y a des moments où on finit par habiter aussi. Donc, c'est pas, y a pas la solution technique, a priori, comme ça, qui fait que ça marche, parce qu'on a fait la villa parfaite, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais il n'empêche qu'il y a des conditions où on se dit comment les gens arrivent à habiter, quand même. Faut le faire, quoi, parce que franchement, on leur a pas aidé. Hein. Donc, il y a d'une certaine, ils sont certes mis à l'abri de ce point de vue-là, mais c'est un vrai, ça reste effectivement un problème, quoi. Donc, je passe du coup à ce rassemblement, j'allais dire, des deux aspects des travaux que je mène actuellement et qui me paraît correspondre à cet oxymore, quelqu'un a employé ça, de logis mobile. C'est effectivement, il y a des propagations qui sont traitées et filtrées par des enveloppes. Et alors là, je passe d'une métaphore physique plutôt à une métaphore biologique, avec la membrane et ses propriétés. Bon, c'est bien que c'est effectivement autre chose qu'une muraille, bien entendu, sinon ça, le vivant disparaît. Et l'intérêt, c'est en visualisant ce qui se passe à l'intérieur de la membrane, on voit bien que, et c'est un peu l'espoir que l'on a dans l'habitat, c'est de pouvoir réguler ces propagations, de pouvoir réguler toutes ces influences pour en faire quelque chose qui finit par produire un intérieur idéalement, je dirais, apaisé d'une certaine façon. Et c'est un point très important, cette notion d'intérieur, et ça fera un lien avec la suite sur les questions de l'écologie. C'est-à-dire, si on ne pense pas l'intérieur, si on ne se pense pas, y compris nous-mêmes, à l'intérieur du cosmos, à ce moment-là, effectivement, on peut toujours parler d'impact et réduire tous les impacts, tout ça, on ne comprend strictement rien, on n'écologise rien. Donc, à mon avis, c'est pour ça que cette notion-là est très utile. Vous allez peut-être me dire, oui, je fais que des théories et des jeux sur les mots, etc. Je pense que c'est important de savoir de quel mot on parle et de quel concept on utilise. Il se trouve qu'en plus, j'ai quand même un peu d'expérience de terrain, j'allais dire. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'avais impulsé quand j'étais élu, quand j'étais adjoint au maire à Rennes de 95 à 2001, où effectivement, j'avais lancé un projet qui a été réalisé de 42 logements sur 5 étages à base de bauge, qui est la bauge du pays rennais, puisque c'est la terre du coin, qu'on pouvait utiliser. Et aussi, c'est ça qui est intéressant, une enveloppe donc traditionnelle, mais qui en même temps s'associe à une enveloppe hyper technique, qui était du triple vitrage à l'époque, etc. Et donc c'est cela qui m'intéresse, c'est justement que la qualité de ces enveloppes-là, techniquement, vont produire un possible habitat ou pas, selon la façon dont elles sont composées. Alors évidemment, quand on produit cela, c'était le premier immeuble de ce type-là en haute qualité environnementale en France, il y en avait d'autres déjà en Allemagne ou ailleurs, et donc ce type de projet-là, il est non seulement il pose un problème technique, si vous voulez, de faisabilité et de conformité, j'allais dire, avec tout l'ensemble des responsabilités écologiques que l'on peut avoir. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout. Et vous en avez beaucoup parlé, je pense, que justement, sur la nécessité de produire des enveloppes et de produire, effectivement, les architectes connaissent bien ça, même avec une enveloppe de départ assez médiocre, eh bien, on peut faire de la réhabilitation, comme on dit, effectivement, mais qu'on arrive finalement, rien qu'avec une seconde peau, à rendre acceptable du point de vue écologique d'anciens bâtiments. Et puis, vous connaissez bien ce que font Lacaton et Vassal. On est effectivement dans cette thématique-là qui devient un enjeu essentiel plutôt que de penser, je pense que ça a été bien dit, tout ce qui est déjà bâti. Je crois que c'est avec ça qu'on va vivre, hein, de toute façon. Donc, il s'agit effectivement de repenser les qualités de ces enveloppes-là, non pas seulement du point de vue écologique ou du point de vue strictement entendu techniquement, mais aussi du point de vue écologique de la relation entre un intérieur et un extérieur et notre capacité à y habiter. Et donc ça, c'est un point qui fait la connexion avec l'ensemble des soucis que vous avez pu avoir sur le bâtiment. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose qu'une bulle que vous avez là à droite. Effectivement, ce n'est pas une bulle fermée, comme une bulle de savon. On est plus proche d'un système immunitaire, donc d'une cellule. Et depuis qu'on a vécu la pandémie, maintenant, tout le monde connaît effectivement la façon dont le virus pénètre partout et perce toutes ces enveloppes et s'y accroche. Eh bien, on est tout à fait beaucoup plus proche de tout cela. Tout cela, et du coup, c'est là où je balance mes inspirations entre la tour d'un côté et puis Sloterdijk de l'autre, puisque c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent et puis de pouvoir discuter là-dessus. Et si par hasard vous n'avez pas lu Écume, lisez vraiment Écume, quoi. Vraiment, c'est prodigieux. Il y a des fois où on comprend plus rien, mais c'est pas très grave, il faut continuer. Et en fait, il y a une idée géniale à chaque page, et c'est très documenté, et les architectes devraient avoir ça vraiment comme livre de base aussi. Il y a Bulle aussi, il y a Globe qui sont des parties plus historiques, si vous voulez. Donc, du coup, j'en viens à ce que j'entends moi plutôt comme habité, et puis évidemment, ça fera aussi référence un petit peu à quelqu'un comme Ratkowski, que j'apprécie beaucoup, mais qui est perdu de vue quelquefois, parce qu'il est mort trop jeune. Mais effectivement, c'est des choses assez importantes. C'est l'idée que notre façon d'habiter, elle comporte trois dimensions. Elle comporte une dimension, ce que je vais appeler de lestage, de filtrage et de couplage. Alors, je m'utilise cette image-là, que j'ai déjà utilisée ici à Cerisy, d'ailleurs, il y a 4-5 ans, ce qui est une image d'une artiste inuite qui, effectivement, produit cette représentation de ce qu'est habiter. Ce n'est pas ça qu'elle voulait faire, mais pour moi, c'est ça que ça porte, si vous voulez, que ça apporte. C'est que vous avez la tente de sudation traditionnelle qui repose sur trois éléments. Les pierres, qui sont vraiment les pierres, qui sont le fondement et qui sont l'ancrage, si, qu'on aurait pu dire à la mode de Heidegger, mais un ancrage, effectivement, avec les ancêtres, là. De l'autre côté, vous avez la tente, mais qui est représentée avec le frêne, des arcs de frêne, qui fait le filtrage. Et puis, vous avez à l'intérieur, ce qu'on entend, ce qu'on voit pas là, parce qu'il y a un son, il y a un tambour permanent. Et c'est précisément ce rythme qui fait couplage, qui fait intérieur et qui crée cette ambiance, d'une certaine façon. Et je trouve que cette œuvre-là est vraiment exprime parfaitement la composition nécessaire entre trois dimensions de l'habitat. Alors, pour reprendre cela un peu plus précisément, et dans une tradition plus anthropologique, effectivement, je parle de l'estage, effectivement, comme je viens de le dire, pour éviter cet ancrage qui est un peu trop substantiel, un peu trop essentialiste ou un peu trop statique, qu'on peut reprocher quelquefois à Heidegger, justement. Et l'avantage de la métaphore maritime, c'est qu'effectivement, elle vous permet de penser, du coup, la mobilité, autrement, et tout en gardant le fait que vous êtes lesté, c'est-à-dire que vous tenez debout, d'une certaine façon, vous êtes vertical, et que vous êtes relié à autre chose que seulement cette horizontalité. Même si maintenant, on peut naviguer sans lestage, mais il faut déjà être un peu, avec tous les foils que l'on a, mais on commence à voler, d'ailleurs, justement. On parle de voler à ce moment-là. Vous voyez, et là, voler comme principe de vie sur Terre, c'est quand même pas si simple. Hein. Donc, imaginez vos déplacements, vos mobilités en termes de vol. Bon, on n'est pas encore totalement passé dans cette culture-là. Donc le lestage, il correspond à quelque chose, à mon avis, d'utile, d'important, et qui est ancestral, évidemment. Et alors j'ai pris plutôt la tente des nomades tibétains, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle comporte trois mâts. Donc il y a l'idée du mât, c'est effectivement ce qui construit cette verticalité qui vous permet de vous retrouver en lien avec les dieux et avec les ancêtres. Mais chez eux, ils en ont trois, et ce qui est très bien, parce qu'il y a le mât sacré, qui est vraiment ce que je viens de dire, là, ce mât qui vous relie aux ancêtres et aux dieux. Mais il y a aussi le mât du guerrier, qui est intéressant, parce que le mât du guerrier, c'est celui qui filtre, justement, qui fait les protections vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, il y a le mât de la femme, qui, elle, va s'occuper précisément du couplage à l'intérieur et de rendre vivable cet espace intérieur. Donc, je trouvais que c'était pas mal de reprendre celui-là. Que se passe-t-il du point de vue du lestage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces appropriations, toutes ces propagations, sont appropriées. Elles sont transformées. Bien entendu, le filtrage, lui, ne permet pas doit laisser passer ces influences extérieures. Et la qualité du bâti va jouer un rôle dans cette affaire. Mais au bout d'un moment, c'est la capacité que l'on a à ancrer les principes qui gouvernent cet espace-là, qui vont permettre à ce que ces ondes néfastes ou bénéfiques, vont petit à petit être retraduites, reprises et rendues vivables à l'intérieur d'un espace donné. Et c'est pour cela qu'on les réoriente d'une certaine façon. Alors c'est cela qui, en fait, nous permet de ne pas être dépendant totalement au flux. Donc mobilité, oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas laisser tous ces flux nous transformer. Et c'est ce qui va nous permettre, au bout du compte, d'arrêter une contagion d'une certaine façon, et puis qui va permettre à terme de produire de l'institution. Alors je vais en prendre un autre exemple qui est celui de la roue de mon époque où j'étais soignant en psychothérapie institutionnelle, justement. Eh bien, on faisait beaucoup référence à Tosquelles, qui était un psychiatre catalan qui avait monté sa clinique à Saint-Alban pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, lui, l'image qu'il prenait, il disait, vous voyez, les soignants religieux, ils ont un avantage, c'est qu'en réalité, ils sont tous reliés au-delà d'eux-mêmes, et que leur identité personnelle, le patient ne peut pas rentrer dedans. Ce qui fait partie des fantasmes du patient qui veut toujours se trouver une place dans la vie du soignant individuellement. Or, là, non, ils sont tous reliés au-delà d'eux, ils ont comme s'ils n'avaient pas de vie personnelle, alors qu'ils sont reliés à autre chose. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire, du coup, ça vous oblige à renvoyer les propagations pour vous renvoyer à votre propre place et à éviter d'être perdu, disons, dans l'ensemble des imaginaires que vous pouvez produire à ce moment-là. Donc, c'est une forme de... ça provoque la tangente, si vous voulez. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce que, précisément, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier dans la qualité de l'habité, c'est comment des principes, des valeurs, une référence au-delà de sa situation constitue le caractère vivable d'un habitat ou pas. Alors je trouve que quand on est à Cerisy, c'est vraiment ce qui est très facile à démontrer. Parce que s'il y a bien un endroit où on se dit « il y a une histoire, il y a un héritage, il y a des valeurs, il y a des principes, et il y a du coup une forme de régulation, si vous voulez, qui se fait, mais il y a une vision, en plus, il y a une vision, donc on est là-dedans, hein, et donc on peut rendre grâce à Edith de porter tout cela aussi, en plus c'est incarné, et ça se sent, c'est-à-dire c'est pas seulement notre habitat, c'est cet accueil qui est possible, cette hospitalité qui est possible, parce qu'il y a ça aussi, sinon effectivement, c'est un hébergement comme un autre, et puis... s'il y a des Airbnb qui sont plus sympas peut-être, bon d'accord, mais ça n'a strictement aucun rapport, si vous voulez, on est dans un autre monde. Et ça c'est très important, pourquoi ? Parce que quand on venait dans les problèmes que l'on rencontre dans les quartiers, ou même dans les familles, quand elles habitent ensemble, etc., on trouve ce type de problème. Qu'est-ce qui oriente et qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui rend... qui fixe les principes de cette vie commune. Et ça, c'est là où on a quelquefois tendance à penser qu'il suffit de faire une bonne qualité technique. Non, il va falloir aussi donner des principes qui organisent tout cela. Et c'est quelque chose qu'on va trouver encore plus, j'en parlerai tout de suite, dans les réseaux numériques. Alors ça se traduit matériellement par le fait que chacun met chez lui des photos, voire même un hôtel quelquefois, un patrimoine, une généalogie, tout ça, ça sert à se relier d'une certaine façon. Et quand on pense à la voiture... Donc à l'habitacle, eh bien, on fait un peu quelquefois la même chose que dans l'habitat, mais pas tout à fait. Mais il faut pas oublier que même dans l'habitacle, eh bien, on a ces références à un code de la route, à un permis. C'est institué cet espace-là, au-delà de nous. Hein, sinon, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a petit à petit créé les différentes règles qui constituent cette viabilité, j'allais dire, de la vie en commun sur les réseaux. C'est effectivement, il nous faut ces références-là. Dans les transports en commun, on a aussi cela. Il y a une forme d'institution qui fait référence et qui permet d'éviter d'être tout le temps en train de faire de la police. Quand on fait de la police, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est un signe que ces références-là aussi sont en train de s'affaiblir. Alors, pour le filtrage, on voit bien qu'il y a de fait, ça c'est plus classique, vous le connaissez bien, effectivement, ça suppose de contrôler et de convertir les flux, et évidemment, ce n'est jamais une barrière totale, donc il y a des seuils, il y a des sas, il y a des rituels, et puis on ne rentre pas et on ne sort pas comme ça chez les gens comme on veut. Ça paraît évident de le rappeler, c'est pas inintéressant quand on pense aux mutations numériques avec Amazon et les portiers numériques qu'on peut avoir, etc. Donc tout ce que ça porte là, c'est bien plus que seulement une solution technique pratique. Il y a des enjeux très importants. On introduit du coup de la friction, alors que vous voyez bien, du point de vue numérique, qu'on a tendance à dire il n'y aurait plus de friction, circulons immédiatement, sans difficulté. Donc c'est quelque chose d'important qui n'est pas si facile que ça à réaliser dans certains cas, pour certains sens. Je pense notamment au son et à l'odeur. Ça passe partout. Et donc c'est très difficile de gérer cela. La vue et le toucher, évidemment, on arrive à peu près, et le goût, n'en parlons pas, mais on arrive à peu près à le traiter. Mais par contre, le son et l'odeur, c'est quand même toujours un problème. Donc on a là effectivement un enjeu de qualité du logement, évidemment, pour permettre ce filtrage. Mais dans les voitures, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment cet habitacle, petit à petit, se transforme petit à petit, pour certains, les plus aisés, en bulle totale, puisqu'on a ces véhicules blindés, opaques, très lourds, etc., que j'ai vu moi, au Brésil notamment, quand on sort des gated communities, y compris certaines avec Mirador, et vous voyez, boum, les SUV qui sortent à fond de cale, etc., totalement opaques, et qui vont au business center un peu plus loin. Vous dites, mais alors qu'est-ce que c'est que cette mobilité-là ? J'ai l'impression que c'est une mobilité de guerre, quoi, hein, d'une certaine façon, ou bien, je dirais, une arme de distinction massive, pour employer une métaphore comme cela, mais c'est quand même quelque chose qui ne fait pas urbanité, là, ça c'est clair, c'est de l'anti-urbanité, hein, délibérément, quoi. Hein. Donc, on voit bien que cette capacité de la bulle, de l'habitacle à traiter ses seuils et à faire ce filtrage est très utile, et à l'inverse, c'est quand même, on peut le tirer trop loin. Mais du côté des transports en commun, on voit bien que c'est aussi le point faible. C'est-à-dire que quand on argumente entre le match transport en commun à voiture, là-dessus, on perd à tous les coups, quoi, hein. Même si chacun arrive à s'équiper avec ses écouteurs et à trouver le moyen de se replier, de constituer cette bulle-là. Donc là, il y a quelque chose qui permet certainement, il y a des pistes d'innovation là-dessus. Puis enfin, le couplage, l'important, c'est précisément ce moment de transformation réciproque du logement et de l'occupant. En habitat, l'habitat il est fait des deux, hein. Il y a pas de, c'est pas l'un sans l'autre, et c'est un peu, pour paraphraser un peu Hannah Arendt, c'est un peu cet espace entre les hommes là, c'était des choses qui rendent la vie possible effectivement. Ça suppose du coup de créer là un climat, une ambiance qui est-ce qu'on crée chez soi, mais aussi qu'on ressent quand on va chez les autres. Hein, je ne sais pas. Je disais ça à propos de Cerisy, effectivement, ce design, j'allais dire, d'hospitalité, eh bien, il fait une sacrée différence du point de vue de l'expérience dans cela. Alors, j'ai pris délibérément l'exemple du Feng Shui, parce qu'en gros, avec cet assemblage de l'eau, des flux de l'eau et du vent, donc c'est intéressant parce que, justement, ce sont des énergies qui continuent à circuler et qu'on organise, en s'y adaptant, d'ailleurs, pas seulement en les contrôlant d'une certaine façon, mais c'est quelque... Alors, c'est amusant parce que quand vous présentez deux schémas du Feng Shui, les gens, en réalité, font des boucles différentes. Donc, alors, ça a été très contesté scientifiquement, etc. Mais il n'empêche, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, mais il y a en fin de compte différentes façons de penser ces circulations d'énergie. Mais le souci lui-même est intéressant, c'est-à-dire de se dire effectivement comment est-ce qu'on vit avec une forme de pacification de ces énergies-là et une façon de rendre vivable cet espace qui va nous permettre de nous reconnaître dans les murs dans lesquels on est et puis d'être affecté par ces murs eux-mêmes. Et là, c'est quelque chose que vous avez discuté en parlant des dimensions, des volumes, tout ça. Ça joue un rôle dans la capacité, la possibilité d'habiter ou pas, quoi. Et effectivement, quelquefois, on est assez étonné de notre capacité d'adaptation parce qu'on se plie souvent. Et bon, ça dure, et puis au bout d'un moment, ça craque. Ce qui peut aussi expliquer certaines demandes de mobilité. Ce qu'on a discuté à la première séance à propos d'habitabilité, au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça suffit. Bon, mais c'est parce que c'est un effort de réduction de son ambition d'habiter qui, au bout d'un moment, n'est plus possible, quoi. Donc il y a des choses comme ça, des tensions qui peuvent se justifier. Donc vous voyez qu'il y a là, en fin de compte, deux points de vue qui coexistent, mais qui ne peuvent pas être saisis avec les mêmes outils. C'est cela, mon point de vue, que j'apporte dans ce domaine-là. C'est effectivement le fait qu'on ne peut pas saisir en même temps le mobile et le loger. Carrément, c'est ça le problème. C'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes façons de tracer, d'observer, tout ça. C'est comme cela. Et en réalité, on se retrouve avec une question assez classique en physique quantique, effectivement, ou un principe d'Heisenberg. Ben, soit vous étudiez l'onde, soit vous étudiez les particules, soit vous étudiez les trajectoires, soit vous étudiez les positions. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas vrais, c'est pas le problème. C'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas traiter les deux en même temps, réellement. Du point de vue de l'expérience humaine, oui, mais du point de vue de la connaissance, non. Et donc là, il y a effectivement un enjeu méthodologique qui est assez intéressant, que je vis moi-même, du coup, c'est pour ça que je fais des trajectoires et de l'habitel en même temps, mais pas en même temps, justement, avec des outils totalement différents. Donc on a, quand on parle de mouvement d'entité, eh bien, on est amené à travailler du coup sur une demeure, un domaine, etc. Et là, on va parler d'étendue, d'ambiance, de climat, de rythme. Et je pense que le temps, là, est absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui constitue l'habité plus encore que l'espace, contrairement à ce que je pensais même au début, moi, autrement. Alors, pour en terminer sur mon exposé et en parler quand même du numérique, parce que vous dire c'est trop facile, il est supposé parler du numérique, il n'en a pas fait. Eh bien si, justement, c'est que en faisant cela, je pense que j'ai essayé de poser un cadre conceptuel qui nous permet de comprendre l'enjeu de la numérisation de l'ensemble de nos espaces de vie. Sinon, on est dans la logique du on suit et on saute sur toutes les innovations, sur tout ce qui bouge, et puis on se dit, et puis voilà, et puis tiens, il y aura des capteurs, génial, et puis il y a encore une innovation, et le BIM, oh, etc., magnifique. Bon, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça, hein? Si c'est uniquement pour faire de la traçabilité et de la surveillance généralisée impeccable, si c'est uniquement pour réduire des consommations, enfin, et du CO2 ou de notre empreinte carbone, c'est pas mal, mais il y a un autre enjeu qui est derrière tout cela, c'est effectivement, est-ce que l'on augmente nos capacités d'habiter ou pas, est-ce que l'on rend du coup notre vie plus vivable ou pas. Donc c'est pour ça que je parle d'habiter le numérique et la nécessité de sortir du principe des réseaux pour passer à quelque chose que j'appelle plutôt l'habitel. Alors, quand on reprend les mêmes références, est-ce qu'on a du lestage numérique ? Ben là, c'est assez clair. Il y a certains espaces assez réduits en lesquels il y a du lestage. Je pense à Wikipédia, que je vous mets là, qui est un miracle du numérique contemporain. J'allais dire, mais vraiment un miracle, parce que dans l'univers, on se demande comment il a pu survivre, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que dans Wikipédia, vous avez un historique, des procédures, des principes, des décisions collectives, des statuts, etc. Et tout cela constitue les conditions d'une vie instituée et d'un espace vivable. C'est très compliqué. D'ailleurs, ça suppose vraiment une élaboration qui a mis du temps à se faire et qu'on a cru que ça allait à un moment capoter. Et non, et ça tient. Mais c'est extrêmement ambitieux et c'est une des plus belles œuvres, disons, de l'intelligence collective, je trouve, contemporaine. Mais vous n'avez absolument pas ça dans les plateformes libertariennes, qui sont celles que l'on fréquente le plus. Je dis qu'on fréquente parce qu'on n'y habite pas, précisément. Hein. On est obligé de vivre avec et de vivre dedans aussi, quelquefois. Mais c'est pas pour autant qu'on y habite. Parce que là, il n'y a pas de référent. Il n'y a même plus de culture du droit. Là, on a finalement des arrangements opaques, hein, avec des, qui sont devenus algorithmiques et qui deviennent de plus en plus opaques, d'accord. Et quand il y a des problèmes, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo de Zuckerberg avec Cambridge Analytica et puis tous les autres problèmes qu'il y a eu. Il y a eu des data breaches importants, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Zuckerberg? Il passe son temps à s'excuser, quoi. Alors voilà, donc vous avez une culture de l'excuse qui remplace quand même le droit, le contradictoire et le fait que, ben oui, il y a des responsabilités. Oh, bon, ça, c'est un peu difficile, apparemment. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à prendre en compte parce que c'est pas dans leur culture. Ils vivent dans le monde, ce qu'on appelle du rough consensus and running code, c'est-à-dire qu'on produit de la donnée et puis on verra bien. Donc, c'est un régime, pour parler en termes psychanalytiques, de passage à l'acte. Et le passage à l'acte, effectivement, ça ne diffère rien. Ça n'est pas organisé et structuré par précisément cette verticalité et un certain nombre de principes. C'est ça fuit, ça part, ça propage, etc. Et on verra bien après. On essaiera de rattraper l'affaire. Et donc, ce colonialisme californien, qui est quasiment digne du Far West, effectivement, heureusement, il y a quelques hackers qui arrivent à le contrer, comme Snowden, qui les révèle, comme Matt Schrems, etc., pour les données personnelles. Mais quand on pense que ces apports-là, si vous voulez, sont reliés petit à petit, sont petit à petit couplés avec l'habitat et l'habitacle, il faut se méfier parce que quand le numérique pénètre l'habitat ou l'habitacle, s'ils sont bien institués ou s'ils sont bien construits comme capacité d'habiter, il a potentiellement la capacité à les déstabiliser. Puisqu'en réalité, on va avoir, que ce soit dans la voiture ou chez soi, effectivement, d'autres principes qui ne sont en réalité sans principe organisateur et qui disent que tout doit passer, etc. Et c'est précisément ce qu'on retrouve là avec le côté la puissance des plateformes. La puissance des plateformes, c'est elle qui balance et qui favorise cette propagation permanente et partout, dans tous les sens, de toutes nos influences, comme on dit, un peu partout. Et nos propres, dans les plateformes, le filtrage, lui, demain, est réduit à l'extrême, si vous voulez, et puisque le principe, c'est vraiment le sans friction, l'immédiateté, et on doit acheter en un clic, hein, évidemment, ou it's a match aussi, quand on fait des applications de rencontres, etc. Donc, vous voyez un petit peu tout cet enjeu-là. Donc là, vous ne régulez rien dans votre intérieur. Vous ne pouvez pas constituer un intérieur sur votre page Facebook. Ça n'existe pas. Vous, à la rigueur, vous logez chez Facebook, et puis c'est tout. C'est pas plus que ça. Et en fait, nous sommes devenus du coup des sismographes, les véhicules des virus de la pensée. Et tout cela est dû là à des choses très précises, très matérielles, qui ont été très bien pensées, sur lesquelles moi j'ai travaillé d'un autre point de vue pendant des années, sur la conception des interfaces, notamment avec en 2009 l'introduction par exemple du bouton retweet, qui vous oblige, vous encourage, vous facilite la tâche. Et à travers ces théories qu'on appelle la captologie, on apprend à faire du design qui vous provoque à réagir. Et donc, cette réactivité permanente-là, elle vous empêche de ralentir ou de construire un espace qui vous est propre. Vous êtes pris dedans. Alors après, on peut dire toujours, oui, mais quand même, c'est à vous de vous débrouiller. Vous devriez être capable de freiner tout cela. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Et ce contenant de pensée, justement, qu'on devrait construire, c'est un terme d'Anzieux, que l'on devrait construire pour habiter le numérique, eh bien, en réalité, il est organisé pour laisser s'exercer toute l'influence publicitaire. Donc, quand on laisse introduire et quand on fait la connexion avec l'habitat et l'habitacle, j'ai presque terminé, hein. Je rassure mon hôte. Donc, les enceintes connectées, les recommandations, les captations de traces, eh bien, de fait, elles perdent toutes les qualités de filtre qu'éventuellement vous auriez pu déjà installer chez vous, quoi. Puisque cette marchandisation publicitaire-là, elle est présente partout. Donc, moi, j'ai une proposition qui fait l'objet du bouquin que j'ai sorti, qui s'appelle « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux », qui débouche sur des recommandations, dans ce sens-là, des préconisations, qui est effectivement le fait qu'en termes de design, on peut aussi rétablir une forme de filtrage avec une forme de maîtrise du paramétrage de la réactivité qui nous sert à nous autoréguler, puisqu'après tout, on n'a même pas de compteur. Quand vous avez une voiture, vous avez un compteur. Dans votre maison, vous avez des compteurs, vous avez tout ça. Ben là, vous n'avez même pas de connaissance de votre propre activité. Ça commence à venir en termes de durée, mais il faut penser en termes de rythme. Et de ce point de vue-là, on pourra petit à petit passer à des régulations éventuellement. Et puis, pour conclure, effectivement, ce couplage-là, eh bien, on voit bien qu'il échoue, le couplage. Parce qu'on est... Pourtant, on a l'impression d'être dans ce monde évident ou dans lequel on est carrément pris d'une certaine façon, mais il est contraint au bout du compte, on est sous emprise hein, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça le problème, ce n'est pas notre intérieur. Cette occupation, on occupe d'une certaine façon un mode connecté imposé par les plateformes. Alors l'avenir, c'est effectivement pour avancer, ce qu'on nous propose en termes de technologie, eh bien, c'est d'aller encore un peu plus loin dans la même lignée de ce qu'on a fait, c'est le métaverse que Zuckerberg publicise beaucoup maintenant, et avec l'idée qu'on va petit à petit encourager encore cette immersion, donc encore plus d'immersion, encore plus d'immédiateté, donc encore plus de passage à l'acte, et ça s'est déjà démontré, puisqu'il y a eu des plaintes pour abus sexuels dans ce type d'environnement. Sauf que les gens disent, on va trouver un moyen. Alors, donc, vous avez une façon de faire une petite zone, alors soit de disparaître carrément, et puis une autre façon de faire une petite zone de distance qui régule la proximité. Mais toujours pas de droit. C'est-à-dire, de fait, non, ça n'existe pas. Donc là, ils ont vraiment un vrai problème qui n'est pas seulement un problème de réguler les abus sexuels. C'est général. C'est un problème juridique global, quoi. Et l'ambiance qui est proposée de ce fait-là par Zuckerberg, elle va s'étendre à travers tous les objets connectés qui concernent du coup toute la ville. Pas seulement les geeks ou les gamers, c'est l'ensemble de notre ville et ses objets connectés qui seront permis par la 5G, 26 GHz, pas celle qu'on a implantée pour le moment, et qui vont nous permettre effectivement de supposer d'être en réactivité permanente et sous le flux de ces propagations, sans capacité ni de droit ni de sécurité, puisque là les hacks vont être permanents, il n'y a aucune norme de ce point de vue-là, et avec une éducation à la spéculation, sur laquelle je reviendrai si vous le souhaitez, mais qui est le modèle dominant de ces univers-là, ceux qui existent déjà, et pas seulement le métaverse de Zuckerberg. Donc vous voyez que finalement, habiter, ce n'est pas vraiment au programme de ce numérique-là. Or, c'est bien ça le problème, on va y loger en permanence, avec y compris une dispense de mobilité, mais c'est certainement pas ça qui va nous résoudre les exigences et les ambitions que l'on peut avoir en termes d'habiter, qui nous permettrait d'aller au-delà du logement et de concilier ces flux de propagation et ces mobilités diverses et variées et la nécessité de faire enveloppe. Merci.